VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
L'État de l'Union est solide également.
Le président Biden, en conclusion de son traditionnel discours sur l'état de l'Union prononcé hier soir devant les deux chambres réunies du Congrès ici à Washington. Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui VOA Afrique, édition spéciale consacrée à ce discours de Monsieur Biden, à la réponse des républicains et aux analyses de nos invités. Au micro, Idriss Assedoudia, en compagnie de Timothée Donangma et d'Eric Manirakiza, et aussi de nos invités, le professeur Mohamed Mbodj de Manhattan College à New York, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, et la professeure Marilyn Sefrocle de Howard University, ici à Washington. À la mise en onde, Michel Joseph. Commençons par des extraits du discours du président Biden qui, s'adressant à la nation américaine, s'est targué de résultats probants dans un vaste éventail de sujets économiques, sociaux et de politique étrangère. Il a dit vouloir finir le travail, rendre à l'Amérique populaire sa fierté et à la nation divisée son unité, en mettant en exergue les progrès réalisés selon lui ces deux dernières années.
Eh bien, l'histoire des États-Unis est une histoire de progrès et de résilience. Nous allons toujours de l'avant. Nous ne cédons jamais de terrain. C'est une histoire sans précédent parmi les nations. Nous sommes le seul pays qui est ressorti de toute crise plus fort, plus solide qu'au début de la crise. Et, mesdames et messieurs, c'est ce que nous faisons une fois de plus. Il y a 2 ans, l'économie se portait mal. Mais aujourd'hui, je suis ici alors que nous avons créé, avec l'aide de beaucoup de personnes ici dans cette salle, 12 millions d'emplois, 12 millions d'emplois. Plus d'emplois créés en 2 ans qu'aucun président n'a créé en 4 années, grâce à vous tous. Il y a 2 ans, la COVID avait fermé tout. Nos entreprises, nos écoles étaient fermées. Nous étions privés de tout. Mais aujourd'hui, la COVID ne contrôle plus nos vies. Il y a 2 ans, notre démocratie a été confrontée à sa plus grande menace depuis la guerre civile. Aujourd'hui, la démocratie est peut-être meurtrie, mais elle reste insoumise et invaincue.
Monsieur Biden a tendu la main aux républicains qui contrôlent maintenant la chambre basse du Congrès.
Chers amis, je pense que le message est clair. Il ne s'agit pas de lutter pour lutter, de détenir le pouvoir pour détenir le pouvoir. Le conflit pour le seul conflit n'aboutit à rien. Cela a toujours été ma vision pour mon pays. Je sais que vous partagez cette vision. De rétablir l'âme de cette nation, reconstruire la moelle épinière de ce pays, la classe moyenne, reconstruire le pays. On nous a réélus pour terminer la tâche à mes yeux.
En politique étrangère, M. Biden a parlé de l'invasion russe de l'Ukraine et du défi que pose la Chine.
Notre force n'est pas uniquement l'exemple de notre puissance, mais la puissance de notre exemple. Souvenons-nous que le monde nous suit des yeux. Il y a 1 an, je me suis exprimé dans cette chambre, quelques jours après que Vladimir Poutine ait déclenché sa guerre contre l'Ukraine. Une attaque meurtrière, avec des images meurtrières. Tout comme la Deuxième Guerre mondiale, l'invasion par Poutine est une épreuve sans précédent, une épreuve pour les États-Unis, une épreuve pour le monde entier. Est-ce que nous allons défendre les plus grands principes? Est-ce que nous allons défendre la souveraineté, le droit des peuples de vivre libre de toute tyrannie? Est-ce que nous allons défendre la démocratie? Parce que cette défense est importante pour nous, parce que cela maintient la paix qui maintient la paix dans le monde et qui, de la sorte, défend notre prospérité. 1 an plus tard, nous connaissons la réponse. Oui, nous allons défendre ces droits. Et nous avons su le faire, nous l'avons fait. Et ensemble, nous avons fait ce que l'Amérique fait toujours. Nous avons été chefs de file. Nous avons uni l'OTAN. Nous avons développé une coalition mondiale. Nous avons défendu le monde contre l'agression de Poutine. Nous avons défendu l'Ukraine. Et l'ambassadeur de l'Ukraine des États-Unis ne représente pas uniquement son pays, mais le courage de son peuple. Madame l'ambassadeur, l'ambassadeur est présente. Nous sommes unis et nous appuyons votre pays. Levez-vous pour qu'on puisse tous vous voir. Merci, merci à vous. Le monde doit vous défendre. Aussi longtemps qu'il le faudra.
Concernant la Chine, le président Biden a parlé de concurrence, mais pas de confrontation.
Notre pays travaille, s'efforce d'établir davantage de dignité, davantage de paix, davantage de liberté, pas uniquement en Europe, mais partout. Avant que je n'entre en fonction, on parlait de comment la République de Chine augmentait sa puissance et l'Amérique échouait dans le monde. Mais ce n'est plus le cas. Nous avons indiqué clairement, et j'ai indiqué clairement dans ma conversation avec le président Xi, que nous recherchons la concurrence et non pas le conflit, mais je ne m'excuserai pas que nous investissons pour faire en sorte que l'Amérique soit plus solide. Nous investissons dans l'innovation américaine pour financer l'avenir que la Chine cherche à dominer. Nous investissons dans notre alliance et nous travaillons avec nos alliés pour protéger les technologies de pointe pour qu'elles ne soient pas utilisées contre nous. Modernisons notre armée pour sauvegarder la stabilité et dissuader l'agression. Aujourd'hui, nous sommes dans la position la plus forte depuis des décennies pour faire concurrence, pour faire pièce à la Chine et à qui que ce soit dans le monde. Et je reste engagé. Je reste engagé à travailler aux côtés de la Chine lorsque nous pouvons défendre les intérêts des États-Unis et bénéficier au monde. Mais soyons clairs, comme nous l'avons indiqué clairement la semaine dernière, si la Chine menace notre souveraineté, nous allons agir pour protéger notre pays et c'est ce que nous avons fait. Écoutez. Soyons clairs, remporter la guerre de concurrence sera difficile. Il y a de grands défis dans le monde. Mais les deux dernières années, les démocraties sont devenues plus solides et non pas plus faibles. Les autocraties sont plus faibles. Citez un seul dirigeant du monde qui s'est opposé à Xi Jinping. L'Amérique relève les défis, l'insécurité alimentaire, le terrorisme, l'agression territoriale, le réchauffement planétaire. Nous faisons davantage. Écoutez, nous avons tissé des liens entre les partenaires le long du Pacifique et de l'Atlantique. Et ceux qui parient contre les États-Unis découvrent qu'il n'est jamais bon de parier contre les États-Unis. C'est toujours une mauvaise idée.
Les Républicains ont choisi Sarah Huckabee Sanders, l'ancienne porte-parole de l'ex-président Donald Trump et gouverneur de l'Arkansas, pour leur réponse à M. Biden.
Et les démocrates s'attaquent à votre liberté de parole. Ce n'est pas normal, c'est dingue. Et c'est faire fausse route. Ne vous trompez pas. Les Républicains ne vont pas céder les armes dans cette lutte. Nous allons être chefs de file avec courage et ne pas faire ce qui est correct du point de vue politique. Les Républicains croient en l'Amérique, où les familles solides se portent bien dans les communautés en toute sécurité, où les emplois sont abondants et les salaires augmentent, où la liberté qu'ont su défendre nos anciens combattants sont le droit imprescriptible de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants.
Voilà, donc c'était la réponse républicaine par la gouverneure de l'Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, qui a donc donné la réponse du Parti républicain. Et Madame Sanders, qui est la première femme élue gouverneure de l'Arkansas et qui était porte-parole de la Maison-Blanche sous l'ancien président Donald Trump, Idrissa.
Oui, effectivement. Et ce que j'ai constaté, à part le fait que, bon, elle a réfuté, elle dit qu'elle ne croit pas à tout ce que Biden a dit dans ce discours, c'était prévisible, et elle a réaffirmé les positions conservatrices du Parti républicain. Mais ce que j'ai constaté pour, comment dirais-je, la politique à venir, n'est-ce pas? Elle a mis l'accent sur les questions culturelles. Elle a parlé, par exemple, d'une expression qui revient très souvent maintenant dans le discours politique, surtout côté républicain. On l'a vu en Virginie, c'est comme ça que le gouverneur de la Virginie a pu être élu. C'est comme ça que le gouverneur de la Floride met l'accent sur cette question. Et c'est ce qu'on appelle le « critical race theory ». Alors, ça parle de l'histoire des Noirs. Pour eux, il faut pas enseigner cette théorie dans la mesure où ça va donner des complexes aux petits blancs et ça va donner aux petits noirs et ça va donner un sentiment de culpabilité aux petits blancs. Alors, cette fameuse théorie n'est même pas enseignée dans les écoles. C'est à un niveau supérieur ailleurs. N'est-ce pas?
Justement, nous avons toujours le professeur Marilyn Sefocle de Howard University avec nous, professeur. Peut-être un éclairage sur cette théorie raciale dont parle Idrissa.
Alors, comme disait Idrissa, c'est une théorie qui n'est même pas enseignée dans les écoles. En fait, c'est une théorie qui fait controverse, mais en fait, pour rien, parce qu'elle n'est pas enseignée dans les écoles primaires, elle n'est pas enseignée dans les écoles secondaires, elle est enseignée seulement au niveau des étudiants de droit, puisqu'il s'agit bien d'examiner comment l'aspect racial a eu une incidence sur les lois de ce pays. Elle fait fausse route de toute façon, Madame Sandra Huckabee. J'ai noté aussi un gros paradoxe, c'est qu'elle évoque les Little Rock Nine, c'est-à-dire les neuf enfants de Little Rock, qui sont des enfants noirs, et en montrant, en parlant de leur statue de bronze qui ont été érigés, etc. Et la phrase d'après porte sur le fait que l'on ne doit pas justement enseigner certaines choses aux enfants dans les écoles. Et justement, ces choses qu'elle ne veut pas que l'on enseigne, c'est surtout l'histoire de l'esclavage. Alors maintenant, il y a l'histoire de l'esclavage pour les républicains ne doit pas être enseignée parce que, comme disait mon collègue, cela pourrait donner un sentiment de culpabilité aux enfants blancs.
Et oui, l'histoire.
Donc, on veut une version, les républicains veulent une version tronquée, veulent qu'une version tronquée de l'histoire, une version tout à fait édulcorée, une version fausse de l'histoire soit enseignée aux enfants. Et c'est là qu'il y a vraiment ce clivage culturel, cette division culturelle entre les républicains et les démocrates. Les démocrates qui ne sont pas du tout pour que les livres soient bannis des bibliothèques, des universités, des écoles, et les républicains qui sont pour cette suppression de tous ces textes tels que les textes de Martin Luther King, tels que les textes de tous les chantres du mouvement de la antidiscriminatoire du mouvement des droits civiques. Donc il y a là un grand clivage entre les deux camps et je pense que Huckabee, elle fait tout à fait fausse route en disant qu'elle est pour que tout un chacun s'épanouisse dans les écoles, mais en essayant de tronquer l'histoire.
Professeur Sefocle, Madame Sanders, la gouverneure Sanders, faisait allusion à ses enfants de Little Rock. Et en fait, ses enfants ont une histoire intéressante. C'était les premiers à intégrer le lycée local et je crois qu'il a fallu faire appel aux forces fédérales pour leur permettre Exactement. D'entrer en classe.
Exactement. Donc, c'est le fait même qu'on ait à faire appel aux troupes fédérales pour que ces enfants soient intégrés dans l'école montre justement qu'il y a eu une histoire extrêmement dure, que l'histoire a été vraiment très dure vis-à-vis des Noirs américains. Et c'est cette histoire-là, elle parle d'eux tout en niant leur histoire. C'est ça vraiment le comble de la... Enfin, je ne vais pas mâcher mes mots, de la supercherie.
Ben, les républicains estiment que beaucoup de progrès a été accompli dans ce domaine ici aux États-Unis et que revenir constamment sur le passé pourrait quelque part nuire à ces progrès-là.
Ça ne nuit en rien au progrès. Revenir sur l'histoire ne peut que expliquer le présent. Dans la salle, il y avait, aux côtés de Biden, les parents de Tyree Nichols, qui a été assassiné par la police, bien que ces policiers soient noirs, par des policiers qui ont vraiment réduit à néant une vie, la vie d'un jeune noir. Pourquoi ? Parce que c'est une pratique dans la police américaine. On n'entend pas souvent dire qu'un jeune blanc s'est fait assassiner. Non. En fait, les noirs sont pris en partie. Ils font ce qu'on appelle en anglais le racial profiling, c'est-à-dire que c'est le délit de sale gueule, comme on dit en France.
Ou de faciès, le délit de faciès.
En fait. Et donc, ça c'est une particularité de l'histoire, c'est une conséquence de l'histoire américaine.
Professeur, pour terminer, j'imagine, Tim, vos conclusions sur le discours de l'État de l'Union du président Biden.
Alors, comme conclusion, je dirais que c'est un discours extrêmement vigoureux. Un discours qui met en exergue la démocratie qui a été sous le président Trump bafouée avec les événements du 6 janvier. C'est un discours qui appelle à l'unité entre les démocrates et les républicains afin qu'ils travaillent ensemble pour faire passer des lois tout à fait sensées qui redonnent au peuple américain sa dignité, c'est-à-dire des lois qui permettent aux Américains de ne pas avoir à faire face, ce qui leur permet de faire face au quotidien dans la dignité, c'est-à-dire sans avoir à se poser des questions pour le financement de leurs médicaments, pour le financement de leurs billets d'avion, pour les petites choses quotidiennes qui sont très importantes pour les Américains moyens. C'est un discours aussi qui non seulement appelle à l'unité, mais qui appelle qui exige des républicains que les républicains se mettent à travailler ensemble avec les démocrates afin que le pays avance. Et c'est un discours aussi met en valeur tous les progrès qui, durant les deux dernières années, ont été accomplis par l'administration Biden-Harris.
Voilà, merci professeur Marilyn Sefok. Je rappelle que vous enseignez à Howard University, ici à Washington.
Maintenant, le professeur Mohamed Modj de Manhattan College à New York.
Je pense que son axe central, c'était ce pays est très fort, ce pays ne fléchit pas dans sa progression, ce pays progresse alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il stagne ou même recule. Et donc, c'est un peu contre tous les défis. L'Amérique sort grandie, la tête haute, et aussi bien sur le plan économique, et surtout sur le plan économique, il y a certes des imperfections, en particulier sur le plan social, la violence. Mais, d'une manière générale, c'est un tableau très optimiste. Et en même temps, l'idée que, si vous me faites confiance, nous allons faire mieux. Sans le dire nommément, sans pointer du doigt le futur, il a balisé un tout petit peu la vision pour dire, si vous êtes d'accord que cette Amérique-là est forte et vous la voulez, eh bien, faites-moi confiance.
Oui, on l'a entendu plusieurs fois dire qu'il y avait un travail à terminer. Terminons le travail, et je crois que c'était un message indirect pour dire que, bon, il méritait un deuxième mandat.
Ah oui, tout à fait. Sans entrer et d'annoncer de façon très claire, il a bien entendu balisé, de façon à ce que, au fond, c'est la seule conclusion possible. La seule conclusion possible, c'est si vous êtes d'accord que nous sommes au bon endroit, que nous sommes en train de progresser, de sortir la tête de l'eau, que notre économie marche d'une manière que personne ne soupçonnait qu'elle aurait été capable, etc., etc. Alors faites-moi confiance, et dans ce cas-là, ça veut effectivement dire maintenant le cap, et bien entendu, gardons le capitaine.
Et le président Biden a insisté sur la situation de la classe moyenne américaine qui, a-t-il dit, a été bien affaiblie par les différents problèmes que connaît le pays. Et il a appelé à des efforts pour aider cette classe moyenne à s'en sortir, notamment au niveau fiscal, en appelant les milliardaires à payer leur juste part d'impôts.
Oui, il a fondamentalement visé la classe moyenne. Il a très peu parlé, disons, des pauvres, entre guillemets, d'une manière générale. Et bien entendu, l'idée, c'est qu'il y avait un fardeau. Ce fardeau, ce sont les taxes. Et que les grandes compagnies, les grandes richesses, ne portent pas leur part égale. D'où cet appel de les taxer d'au moins 15% dans le futur. Et de faire en sorte que cette charge fiscale ne soit pas seulement sur le dos des classes moyennes. Les classes moyennes ont des problèmes, non seulement avec l'inflation, mais aussi ils ont des dettes, en particulier des dettes médicales. Ils ont des dettes avec les dettes des étudiants, etc. Et donc c'est un plaidoyer qui est vraiment fondamentalement, disons, axé sur cette classe moyenne, sur cette population des villes et des faubourgs des villes et des environs des villes. Et de faire en sorte que cette frange éduquée et soit un tout petit peu la ligne de mire des objectifs économiques du mandat prochain.
C'était donc le professeur Mohamed Moj de Manhattan College à New York. Maintenant, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Alors, Ambassadeur Cohen, nous l'avons dit au début de cette émission, le président Biden a prononcé son discours sur l'état de l'Union cette année devant un congrès divisé avec les républicains qui ont pu arracher le contrôle de la Chambre. Donc, il se devait de procéder à un exercice, si l'on peut dire, d'équilibriste en avançant les causes chères aux démocrates tout en ménageant la possibilité de travailler avec les républicains pour faire passer un certain nombre d'initiatives, ambassadeur.
Oui, et malgré le fait que les démocrates sont en minorité dans la Chambre, il a fait passer plusieurs projets de loi très intéressants. Un projet sur l'infrastructure. Nous allons maintenant réparer des ponts, des routes, des anciens systèmes d'eau, des tunnels. Ça, c'est un grand projet qui bénéficie tout le monde. Aussi, il a fait baisser le chômage. Maintenant, le chômage aux États-Unis est moins de 4%. C'est très bas en comparaison avec l'ancienne administration de Trump, par exemple. Pendant ces deux ans, ils ont créé 10 millions d'entreprises, grandes, petites, moyennes. Et il y avait 800 000 nouveaux job, nouveau emploi créé pendant les 2 ans. Et il a baissé le prix de médicaments pour les seniors, pour les gens plus âgés que 60 ans. Donc il a fait beaucoup de choses, mais beaucoup de ces choses commencent maintenant seulement. Donc sa popularité n'est pas encore très grande, mais je crois qu'après quelques mois, quand tous ces projets commencent à ouvrir, qu'il va gagner en popularité, parce qu'il a fait beaucoup de progrès, à mon avis, pour l'économie des États-Unis.
Ambassadeur Idrissa Seloudia, vous avez donné un bilan qu'il a lui-même mis en exergue en se vantant, en se targuant de tous ces résultats. Mais il reste impopulaire, comme vous le dites, et beaucoup d'Américains disent qu'ils n'aimeraient pas le voir se représenter. Ils n'aimeraient pas non plus voir l'ancien président Donald Trump se représenter. Alors, le problème, il parle de l'âge des deux hommes. Est-ce qu'il va pouvoir surmonter ce problème avec le bilan qu'il a développé aujourd'hui?
Je crois que selon son discours, il a décidé d'essayer. S'il est réélu pour un deuxième mandat, il sera 86 à la fin de son mandat. Donc, il y a beaucoup de monde qui disent, oui, il était un bon président, mais maintenant il commence à être trop vieux. Donc, mais à mon avis, il a annoncé ce soir qu'il sera candidat encore une fois.
Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale consacrée au traditionnel discours sur l'état de l'Union prononcé hier soir à Washington par le président Joe Biden devant les deux chambres réunies du Congrès. Merci à Timothée Donangma et au professeur Mohamed Modj de Manhattan College à New York, à Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, et à la professeure Marilyn Sefok de Howard University, ici à Washington, à Michel Joseph à la mise en onde et à Kelvin Fowler à la régie. Pour terminer, le reste de l'actualité avec Eric Manirakidza.
Désormais meilleur marqueur de l'histoire de la NBA devant Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James continue d'écrire à 38 ans sa légende, ravivant le débat quant à savoir qui de lui ou de Michael Jordan est le plus grand basketteur de tous les temps. La barre avait été fixée très très haut, 38 387 points par Abdul-Jabbar au soir du 5 avril 1989. Une éternité à l'échelle du sport moderne, plus de 38 ans. Pourtant, il y en a eu entre-temps des scoreurs impénitents qui se sont succédés. Les Karl Malone, troisième avec 36 928 points. Kobe Bryant, quatrième avec 33 643 points. Évidemment, Michael Jordan, cinquième avec 32 292 points. LeBron James, quatre fois meilleur joueur de la saison, a aussi disputé des finales, oui, et d'affilée même entre 2011 et 2018. Il vient donc de battre le record de Kareem Abdul-Jabbar après 38 ans. Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a fait plus de 8300 morts selon de nouveaux bilans officiels. Des régions entières ont été ravagées par des secousses qui ont aussi fait des milliers de blessés et de sans-abri. Les États-Unis ont indiqué ce mardi travailler avec des ONG locales en Syrie pour venir en aide aux victimes de ce séisme dévastateur, refusant tout lien avec le gouvernement de Damas. L'aide américaine consiste à soutenir les équipes de secouristes et à fournir des abris et de la nourriture, a dit le responsable en charge des opérations de l'Agence américaine pour l'aide au développement USAID. Deux policiers, un gendarme et malien ont été tués ce mardi dans l'attaque d'un poste de contrôle dans l'ouest du Mali. 6 civils ont été tués et 1 blessé lundi lors de l'attaque d'une localité par des djihadistes présumés dans la région du centre-ouest du Burkina Faso. Le procès historique de l'ancien président mauritanien Mohamed Abdelaziz pour enrichissement illicite peut continuer. La Cour a finalement décidé que cette question serait tranchée en même temps que celle de la culpabilité ou non des accusés après les débats sur le fond de l'affaire. Au moins 3 personnes ont été tuées ce mardi soir lors de l'attaque d'un convoi de l'ONU dans l'est de la RDC. Et le gouvernement à Pékin a refusé samedi la proposition américaine d'un appel téléphonique entre le chef du Pentagone, Lloyd Austin, et son homologue chinois peu après que l'armée américaine eut abattu un ballon chinois.